est mal au lieu, mais eurent l'avantage notable de conjurer quelque peu son ire. Et l'envahissante végétation autour de lui sembla tressaillir à ce tintamarre inaccoutumé. À mesure que le temps passait, son inquiétude ne faisait que grandir, et la culpabilité de n'avoir su défendre Robin le rongeait. Déambulant au milieu de la nef, Andreas tenta de retrouver la paix en examinant froidement les derniers événements. Une chose en particulier l'intriguait. Les deux hommes qui avaient paru aux côtés de Guillaume Imbert, ses geôliers sans doute, ne ressemblaient aucunement aux deux cavaliers qui avaient tué Magdala, et qui, selon toute vraisemblance, étaient les mêmes qu'il avait vus dans le cloître de l'abbaye Saint-Magloire. Ainsi, Andreas avait non pas un, mais deux ennemis à ses trousses. Imbert d'un côté, et les cavaliers de l'autre. S'il faisait peu de doute que l'inquisiteur agissait sur l'ordre du roi, à la solde de quel mystérieux adversaire, en revanche, travaillaient donc ces deux obscurs assassins? L'apothicaire en était encore à songer à ces choses-là, qu'en voyant la lune haut dans le ciel, il commença à estimer que l'absence du Templier devenait anormalement longue. Écartant rapidement l'hypothèse d'un piège, Andreas envisagea la possibilité qu'il fût arrivé malheur au dit Colin. Il attendit encore un temps certain, puis n'y tenant plus, il décida qu'il devait agir et désobéir au Templier, en sortant enfin de sa cachette. Chapitre 78. Robin, à qui l'on avait bandé les yeux, ignorait tout de l'endroit où il se trouvait quand, soudain, il entendit un bruit de chaîne, puis celui d'une porte qui s'ouvre et se ferme. Assis sur un sol de pierre froide, les mains liées dans le dos, il frissonna. Il avait été jeté là depuis un long moment, et maintenant il avait froid et faim, et la corde à ses poignets lui brûlait la peau. À travers l'entrebâillement du bandeau, il devina la lueur d'une torche. Il entendit ensuite des pas qui s'approchaient de lui. Et à l'écho qu'ils produisirent, il déduisit qu'il était dans une grande et haute pièce. Puis une main se posa sur son épaule et le garçon sursauta. « Ne bouge pas, je t'enlève ton bandeau. » Le corps tout tremblant, Robin se laissa faire, et alors il dut cligner des paupières pour accoutumer ses yeux à la faible lumière. Et il découvrit le décor singulier qui l'entourait. Il était dans une vaste salle heptagonale, voûtée, et tout autour de lui, le long des murs, se dressaient de grandes statues qui avaient la taille d'un grand homme, mais qu'il n'eut guère le temps d'observer en détail car déjà, l'homme devant lui l'attrapait par le col et l'obligeait à se hisser sur une chaise qu'il avait amenée là. « Comme voulez-vous ? » s'écria Robin avec un accent de terreur. L'homme ne répondit pas, et attacha les mains déjà liées du garçon sur le dossier de la chaise, avant d'aller allumer d'autres torches disposées sur les murs. L'instant d'après, un deuxième homme entra dans la pièce, et Robin reconnut le visage de celui qui l'avait arrêté, fin et barbu, ainsi que son habit de religieux et la croix dorée qu'il portait sur la poitrine. « Sais-tu qui je suis ?» demanda celui-ci en s'approchant lentement du garçon. Robin, qui était terrifié, ne trouva pas la force de répondre, mais de fait, il ignorait encore à qui il avait affaire. « Je suis Guillaume Imbert, grand inquisiteur de France, et je suis ici sur ordre du roi Philippe. » La terreur de l'apprenti ne fut qu'accrue par cette nouvelle, et ses paupières s'ouvrirent si grand qu'on eût dit que ses yeux allaient en sortir. « Tu n'es pas sans savoir, mon garçon ?» qu'une ordonnance royale demande l'arrestation de ton maître, Andreas Saint-Loup. Pour l'heure, elle ne concerne que lui et ton nom n'y est guère évoqué. Aussi, si tu réponds à toutes les questions que je vais te poser, je te laisserai partir sans le moindre jugement. Dans le cas contraire... » L'inquisiteur fit une pause, pendant laquelle ses lèvres se pincèrent dans une grimace embarrassée. « Eh bien... « ne parlons pas de ce qui arriverait dans le cas contraire, et gageons que tu te comporteras en bon chrétien. » Imbert, qui s'était penché sur l'apprenti, se redressa alors et, croisant les mains dans son dos, se mit à marcher lentement autour de la chaise. « Avant tout, reconnais-tu...